Été comme hiver, les exaltés du divan pratiquent leur sport favori, regarder la télé.
Votre guide télévisuel! Les exaltés du divan, épisode...
20!
20?
Ouais!
Bonjour tout le monde, bienvenue aux exaltés du divan. Je suis en compagnie...
d'Erika.
Et je suis...
Simon.
Et on est des maniaques de télévision.
Oui, oui, et tout d'abord, je veux quand même parler d'une bonne nouvelle, vraiment importante avant de tout parler, parce que j'étais comme trop contente de voir ça, parce que je suivais ça activement sur les réseaux sociaux. Et oui, il y aura une saison 4 de Lucifer sur Netflix!
Oh, hashtag save Lucifer!
Oui, pick up Lucifer!
Bon, ben, faut que là, Netflix, ils ont racheté les droits, puis c'est eux qui vont faire la prochaine saison.
Ouais. Fait que ça veut dire peut-être que les saisons 1 à 3 vont être sur Netflix aussi potentiellement.
Ah, ça serait le fun, ça. C'est habituellement ce qui arrive quand Netflix achète une série. Là.
Donc pour ceux qui n'ont pas encore accès parce qu'il fallait aller sur la baie des pirates, là vous allez pouvoir le faire.
Magnifique, ah ouais, ben ça serait vraiment cool. Je pense que ça ferait beaucoup d'heureux et une nouvelle série assez intéressante à checker sur Netflix.
Puis encore avant là, de se mettre dans le bain, là, on pourrait peut-être parler du nouveau divan qu'on a eu finalement.
Oh, alors on est les exaltés du divan, mais on doit avouer que notre divan, il était pas tant exaltant que ça. On l'avait étiré au maximum de sa vie.
Ouais, il avait été acheté en 91. Il était à l'origine mauve et avec des fleurs d'une couleur...
genre de gris-bleu. En tout cas, il était bizarre. Il était bizarre. Il avait été recouvert par toi pour lui donner une deuxième vie. C'est tu l'avais même rembourré.
Ouais, mais c'était un peu artisanal.
Un peu artisanal, mais ça a donné au moins 2-3 ans de plus. Mais là, bon, il était temps de passer au niveau supérieur. Ouais. Maintenant, on a un divan là, avec les pieds inclinables et tout. Donc, on peut rester devant la télé encore plus longtemps.
Gracieuseté de mon grand-papa qui ne pouvait plus garder ce divan-là. Donc, on a un beau gros divan Lazy Boy, 3 places.
Exactement, donc il y en a toujours une place de plus, hein. Si quelqu'un veut regarder les séries, écrivez-nous, on va peut-être vous inviter.
Sinon, ben, on va passer une chaise, hein.
Ouais, c'est ça, exact.
Et non, nous, les exaltés du divan, on n'a pas encore un gros divan L, mais peut-être que dans plusieurs années, quand on va être rendu vraiment riche à cause du podcast, on va pouvoir s'en payer.
Ouais, c'est ça, exactement, donc à long terme.
Bon, donc le programme d'aujourd'hui, c'est quoi, Simon?
Ben, en fait, on n'a pas de série hebdo. C'est comme la pause, hein, tu sais, l'été, c'est un peu le moment faible de la télé. Donc, on va avoir un petit segment voyage. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Ensuite, Erika va nous parler de la série iZombie. Moi, je vais vous parler de la série The Hollow. Et on va finir ça avec un film plus ou moins récent des frères Coen, César,
Ave
César en français, Hail César en anglais, Hail Caesar. Mais en fait, sans plus tarder, voyage. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait et en fait, on le fait pour une série qui est probablement une des meilleures séries de Netflix. En fait, on n'en a jamais parlé encore. C'est une série qui était sortie en 2016, je crois, pour la première saison. Deuxième saison, 2017. C'est la série The Get Down.
Ouais, une série... Qui traverse, en fait, le début du rap et la fin du disco, comme les deux se chevauchent un peu, là.
Ouais, ça se passe à New York, je crois, dans les années...
Dans le Bronx, vraiment, le gros Bronx des années 70 intense, là.
Ouais, puis, ben, c'est une série de Netflix vraiment fantastique, en fait. C'est une des plus grosses séries. En fait, c'est encore à ce jour la série la plus coûteuse que Netflix aura produit. Mm-hmm. Je crois qu'on était autour de 7,5 millions par épisode seulement, autour de 120 millions en tout pour une série de 12 épisodes.
Mais il faut dire que c'est Baz Luhrmann qui fait ça, là, fait que c'est clair que c'est d'une qualité intense. Là. Ce gars-là, il tourne vraiment pas les coins ronds.
Non, c'est ça. Pour ceux qui sauraient pas, si je me trompe pas, c'est le réalisateur de Moulin Rouge, de Great Gatsby.
Exact.
Donc on voit son style flamboyant et tout ça, et ça on le retrouve beaucoup dans cette série-là, même qu'il disait emmener les acteurs, ils avaient, tu sais, il y a des DJ là-dedans, pis ça, pis ils avaient juste forcé à tourner des vinyles dans leurs mains toute la journée pour que ça soit naturel, puis qu'il y ait les bons moves quand c'est le moment de tourner le vinyle.
Puis même en fait, il forçait les acteurs à scratcher pour de vrai, même si c'était pas nécessaire pour
la série.
Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, comme il impliquait vraiment les acteurs à fond, là. Il a l'air d'un excentrique un peu, mais en fait, tu le vois dans la qualité que...
Ah, la qualité, elle est folle, puis en fait, ça a l'air de rien, c'est une série qui se passe justement dans les années, je pense, ça doit être début 80, fin 80...
Non, c'est les années 70.
70, ouais. Fin 70, début 80, d'après moi, début du rap et tout ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, fin des années 70, c'est bon, on vient de valider la chose. C'est qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux parce qu'il mélange avec des scènes de télé originales de l'époque, puis avec le Bronx de l'époque aussi. Donc les effets
Ouais.
spéciaux paraissent pas, mais c'est bourré d'effets spéciaux tout le long parce que ça se passe, c'est une série d'époque, là.
Ouais, puis en fait aussi dans le Bronx à l'époque, il y a comme un gros problème sur les gens qui abusent des polices d'assurance des édifices. Fait qu'en fait, ils arrêtent pas de faire exploser des édifices, les faire pogner en feu, des effondrements. Fait que c'est vraiment un peu le chaos là-bas, puis ça on le voit. Fait que tu sais, c'est aussi dans tu sais, de temps en temps, on va voir un édifice. Ouais,
S'effondrer,
c'est ça.
puis...
Puis il y a aussi des éléments quand même intéressants, comme du point de vue historique, là, comme le gros. À un moment donné, il y a comme une grosse panne d'électricité à New York, puis ça dégénère vraiment. Puis, ben, tu sais, c'est aussi tout le côté petit mafieux qui
La gang
est
de rue,
là.
c'est le
Ouais.
début des gangs de rue aussi à New York, avec l'apparition du hip-hop. Ce que j'ai trouvé quand même intéressant de cette série-là, c'est que c'est pas dramatique dans le sens que ça a quand même un ton léger tout le long malgré tout même si ça touche des sujets sérieux c'est pas comme tu sais des gens qui se tirent dans la rue puis
Ouais.
des affaires vraiment dramatiques oui il y a des choses graves qui se produisent tout ça mais ça reste que ça a toujours un petit côté léger qui est agréable pour la série là. Ça a un ton très clair là.
Mais en fait, vu que c'est des adolescents, t'sais, ils ont comme un peu toute la vie devant eux, t'sais, on dirait que le monde leur appartient, ils sont vraiment dans leur époque, puis en plus, comme les personnages principaux, t'sais, qui se lancent un peu dans les prémices du rap, mais t'sais, ils ont l'impression qu'ils font vraiment changer les choses, qu'ils sont porteurs d'un courant, puis tout ça, fait, ce qui est vrai. Fait que tu vois que c'est vraiment quelque chose comme... Ils assistent à la naissance d'un truc vraiment fou, puis ça transparaît, t'sais, dans leur façon d'agir, puis... Ils sentent un peu justement, t'sais, les guerriers du monde, les
Oui.
guerriers du Bronx. Et aussi, juste pour finir, une petite parenthèse historique, il y a quand même un bel aspect artistique là, du point de vue des graffitis, là, la culture des graffitis. T'sais, on en a encore de nos jours, il y en a encore, t'sais, un peu partout en Amérique, mais c'est pas aussi intense que ça l'a été à cette époque-là. T'sais, les graffitis, ça avait vraiment une dimension importante.
Ben, c'était
Fait
vraiment une
que,
forme d'art
ouais.
dans la rue, puis il y avait des gens qui étaient reconnus pour ça, donc c'est vraiment une super belle série, tu sais, on voit maintenant il y a tellement de bonnes séries qui sortent, c'est comme cette série-là, ça fait même pas un an et demi qu'elle est terminée, déjà on n'entend plus du tout parler, mais ça vaut vraiment la peine de la visionner en
Ouais,
fait, là.
je pense que ça va même aller dans les classiques intemporels. T'sais, moi, je le recommanderais, je le réécouterais n'importe quand.
Ouais, exact. C'est pas très long non plus. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. On voit vraiment toute la fin d'une époque, le début des changements. C'est New York dans un moment extrêmement effervescent. C'est aussi la pauvreté par rapport aux promoteurs immobiliers. On en parle un petit peu tantôt. Il y a aussi le côté religieux qui est là. Bien entendu,
Ouais.
la religion est assez forte. Donc il y a beaucoup de choses vraiment intéressantes là-dedans, historiques. Et c'est drôle.
Ouais.
L'histoire est bonne. Les personnages sont attachants.
C'est tellement stylé aussi,
Ah
puis
ouais, puis la musique, hein,
est
tu sais,
trop bonne.
les scènes de musique dans ça, on peut imaginer vraiment facilement le Moulin Rouge, tu sais, c'est
Ouais.
des scènes où il va y avoir des gens qui vont chanter, qui vont danser, donc c'est presque une comédie musicale par moment, là.
Exact. Puis aussi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, tu sais, il y a vraiment beaucoup de productions de télévision qui abordent, mettons, le point de vue des Noirs, tu sais, actuellement, surtout sur Netflix. Mais l'affaire, c'est qu'on oublie, en fait, que l'autre minorité qui est maintenant plus nombreuse que les Noirs, c'est les gens qui viennent des pays d'Amérique latine. Puis là, on les voit vraiment, tu sais, un peu à égalité avec... Parce qu'ils ont les mêmes conditions, ils
Ah, ils
ont...
partageaient le
Exact.
même environnement à ce moment-là, puis c'est vraiment, puis ils ont quand même une rivalité entre eux aussi malgré tout,
À
t'sais.
certains points, ouais, puis c'est surtout que je trouve qu'ils sont pas très présents, mettons, dans les autres genres de séries télé. Tu sais, ils sont quand même généralement délaissés, je trouve.
Oui.
Puis, en fait, le personnage principal, c'est un noir péruvien, je
Un
pense.
portoricain.
Un portoricain, ok, ouais, c'est ça. Qui est mulâtre avec un noir, dans le fond.
Ouais,
Fait que,
c'est
tu sais,
ça,
c'est
exact.
un bon mélange parce qu'en plus, il est comme un peu dans les deux cultures, puis... Tu sais, la religion, justement, chez les latinos, full catholique, c'est tellement important, puis tout ça, puis, tu sais, t'as comme tout le côté aussi de la production musicale, le gospel, puis, tu sais, c'est une grosse
Ouais, il y
industrie.
a tout un côté de l'industrie musicale qui est vraiment intéressant. D'ailleurs, le producteur de musique, c'est un des bons personnages dans la
Ouais.
série, là. Tu sais, un genre d'ancien gars qui a produit beaucoup de disco, puis là, ben, il veut essayer des nouvelles choses. Il a plus vraiment de carrière, donc il se retrouve un peu à à produire du rap, donc c'est quand même assez intéressant.
Ouais, puis l'église ont l'avantage d'avoir une acoustique parfaite.
Ouais, ça leur donne certains avantages à des bons moments. Donc, The Get Down, je pense que... Est-ce que t'avais d'autres choses, toi, à dire là-dessus, Erika?
Non, non.
Mais vraiment, c'est une grosse recommandation, en fait. Là.
Ouais.
On commençait le podcast juste après avoir fini ça, pratiquement, puis c'est vraiment une des très, très bonnes séries que Netflix a produites.
Donc, oui, j'enchaîne avec iZombie.
iZombie comme un iPhone?
Ouais, iZombie comme un iPhone, okay. Ou un iPod, ou, okay. Ou Feu iPod, puis personne connaît ça. ouais, c'est écrit par Chris Robinson et Michael Arred. En fait, c'est tiré d'une bande dessinée publiée par DC Comics. Et c'est assez populaire, puis même, je pense, elle a gagné un prix pour le prix du fandom, genre le plus heureux.
La série,
comme
ça,
ouais, ou... au début, quand c'est sorti, l'adaptation. Ouais, c'est ça. Puis en fait, l'histoire, grosso modo, c'est une Olivia Moore, qui est une étudiante en médecine, puis elle se fait comme transformer en zombie à suite d'une soirée qui a comme dégénéré. Et en fait, elle voulait devenir, tu sais, un docteur, tout ça. Puis là, elle a comme besoin de manger des cerveaux, fait qu'elle va devenir un médecin légiste, elle va travailler dans une morgue. Et elle va se découvrir un peu des alliés, puis elle va... En fait, c'est quand on mange un cerveau, on peut avoir certaines visions.
Des souvenirs, comme, de
ouais,
la personne.
Exact, des souvenirs de la personne, mais tu sais, ça prend un élément déclencheur, fait que... Vu qu'elle, elle mange tout le temps des cerveaux de gens qui se sont fait comme tuer, assassiner, ben là, elle décide de partager ces informations-là avec le détective pour résoudre des enquêtes. Donc,
est-ce... Et elle mange les cerveaux des morts pour savoir comment ils se sont fait tuer pour résoudre des enquêtes,
c'est non, ça? Mais dans le fond, elle mange les cerveaux des morts parce qu'elle a pas le choix de manger, ouais, des cerveaux, parce que sinon, elle se transforme en un genre de zombie, tu sais, le full cave.
Les zombies standards.
Ouais, c'est ça.
Parce que là, c'est normal.
Exact. T'sais. Fait qu'en fait, quand les gens, ils sustentent leur faim, ils se transforment pas en monstres. Donc, c'est ça. Fait que là, vu qu'elle avait comme accès à cette information-là, elle se dit « Ah, ben là, tu sais, je peux pas comme cacher ça. Il faut que je sauve, tu sais, un peu l'honneur de la personne qui est morte. » Donc, c'est vraiment un truc typique Monster of the Week avec des petites enquêtes. C'est toujours le cas.
C'est quand même humoristique un peu.
Ouais. Parce qu'en fait, aussi, l'affaire, c'est non seulement elle a certains souvenirs qui vont être déclenchés, mais surtout, en fait, elle adopte des traits de personnalité.
De la personne.
Ouais, exact. Fait que tous les zombies, ils adoptent des personnalités. Fait que, tu sais.
Parce qu'il y en a plusieurs.
Ouais, c'est ça. Parce que c'est un genre de virus qui se propage et tout, là. Mais peu importe. Tout ça pour dire que j'ai écouté 2 saisons, puis que c'est vraiment un gros arc sur, dans le fond, trouver l'origine de comme cette. Comment on dit ça?
Cette maladie.
Ouais, genre, si on veut, là, l'origine...
Zombiisme.
Ouais, exact. L'origine du zombiisme, là, tu sais, ils font des associations, il y a comme une grosse enquête, tu sais, qui tourne autour de ça. Son partenaire, dans le fond, à la morgue, et c'est genre aussi un scientifique, fait que, tu sais, il essaie de trouver un remède, il teste ça sur des rats, fait que, tu sais, comme c'est vraiment un gros arc là-dessus. Et c'est quand même cool parce que c'est vraiment tout le temps différent, puis c'est sûr que... Des fois, c'est un peu dur de jouer tout le temps des personnages différents parce qu'on s'entend que la fille, en le fond, à chaque épisode, elle joue un rôle différent.
Ouais, parce qu'elle mange un cerveau de quelqu'un,
ouais,
d'autre, puis l'emmener est genre un sociopathe, puis l'emmener est un joueur de baseball.
Exact. Puis... Fait que tu sais, il y a des rôles qu'elle a mieux que d'autres, mais en tout cas. Puis je pense en fait que c'est la clique de Once Upon a Time. Tu sais, on avait écouté 2 saisons.
Ouais.
Ouais, parce qu'elle, elle joue Tinkerbell dans okay. Ouais, La Fée Clochette. Puis en fait, aussi, il y a un autre acteur qui est là-dedans, c'est lui qui joue. Frankenstein, puis il joue aussi dans Vampire Diaries, fait qu'en tout cas, ça a l'air d'être la petite clique un peu, puis tout ça pour dire que j'ai un gros coup de cœur pour le personnage de Ravi Chakrabarty, qui est un genre de gars qui vient de Londres, d'origine indienne, puis c'est son partenaire justement à la morgue, puis il est vraiment cool, d'une bonne personnalité, il est full crampant. Puis ça fait penser un peu à Lucifer aussi, parce que,
ouais,
tu sais, il est comme
mais c'est le fantastique qui vient avec le policier, tu sais.
Ouais, puis l'accent british, tu sais.
Ah, ouais. C'est un peu humoristique quand même,
ouais.
Les zombies, là, tu sais, ça se prend pas trop sérieux, là. C'est un
non,
truc qui
c'est
vient
ça.
D'un comic, c'est quand même léger et drôle.
Exact, puis à chaque épisode, t'as la petite recette aussi, parce qu'elle se cuisine toujours, tu sais, le cerveau d'une autre façon, là. Fait que t'as comme tout le temps un genre de 15 secondes en accéléré où il faut qu'elle aille faire son lunch, là. Fait que tu vois ça, tu sais, comme les vidéos sur Facebook,
ouais.
Et tu vois genre Tasty quelque chose, là. Ouais, c'est un peu à...
Ok, ils font ça de même.
Ouais, un peu.
Puis elle met de la sauce piquante, hein.
Ouais, ouais, c'est des fans de sauce piquante. Donc, en tout cas, il y a 4 saisons sur Netflix, là. J'ai juste de commencer 3 pour clencher ça, donc je vous en reparle plus tard. Mais à date, ça m'a vraiment plu, puis Moi, j'aime bien le concept, puis je trouve que c'est bien dosé, enquête, humour, c'est, tu sais, oui, il y a des jokes un peu américaines, mais il y a aussi une meilleure scénarisation, mettons, qu'une série américaine normale.
Ah, cool, bon, ben, c'est bon, moi, j'ai eu la chance de voir quelques épisodes avec toi, là, c'est pas pire, ça rappelle un peu, justement, Lucifer, le mélange de... On est des policiers, mais on a accès à des genres de pouvoirs pour résoudre. Mais tu sais, c'est pas si important la résolution parce qu'il y a des ennemis, si on veut, plus gros là, qui vont être là toute la saison.
Mais tu sais, c'est sûr que, mettons, entre les deux, je préfère Lucifer parce qu'il y a tout le côté un peu mythologie, philosophie, famille dysfonctionnelle, tu sais, à quelque part. Mais là-dedans, c'est un peu plus... Tu sais, des fois, j'y regarde un peu d'un œil en diagonale, là, mais tu sais, mettons, je trouve ça bon, mais c'est sûr que dans le même genre de thème, je recommande plus Lucifer que iZombie.
Peut-être bientôt sur Netflix.
Oui.
Donc, iZombie sur Netflix.
Ouais.
De mon côté, j'ai regardé une série qui vient tout juste de sortir, là, c'était début juin, c'est The Hollow. En français, ça s'appelle Les Têtes Vides, en fait, donc ça n'a pas vraiment rapport, mais... The Hollow, dans le fond, c'est une série animée, là, donc c'est des cartoons.
Mm-hmm.
Un truc d'aventure science-fiction. Et j'étais vraiment excité par ça parce que moi, je suis un grand fan des séries Netflix animées. Big Mouth, je vous en avais déjà parlé. Et F is for Family, que j'ai pas encore parlé, mais que je vais vous parler éventuellement.
Ah, oh, c'était quoi aussi ton affaire, là, de mode?
De mode, ah, Neo Yokio. Ouais, c'est ça, on va en reparler aussi. Ouais, il y a des gens qui sont pas satisfaits par ça, mais bon, on va y revenir. Donc moi, mais ça, c'était comme un manga, là. C'était un animé. Fait qu'en tout cas, moi, j'aime bien les cartoons. Malheureusement, c'est une série pour enfants.
The Hollow, ça?
Ouais, The Hollow. T'es pas enfant naissant, là, mais t'sais, c'est comme pour jeunes adolescents, mettons.
Comme
là, t'sais, 13-14 ans, peut-être. Je l'ai quand même regardé au complet parce que j'étais dedans tout le long. C'est sûr qu'il y a ce petit bémol-là, dans le sens que j'espérais que ce soit pas ça, mais finalement, c'était ça. Mais bon, c'était quand même... J'ai pu outrepasser ça pour regarder la série au complet.
Mais en même temps, tu sais, si je peux me permettre, je pense que c'est le public le plus négligé de Netflix, c'est ces gens-là.
Absolument, il y a des trucs pour les jeunes enfants, il y a des trucs pour les adultes, des trucs pour les jeunes adultes les plus vieux, mais effectivement, il n'y a rien pour les ados vraiment sur Netflix. Donc, c'est correct qu'il ait fait ça parce que ça reste que la série est quand même très bonne. Le concept, c'est quoi? C'est trois jeunes justement qui doivent avoir 14-15 ans, qui se réveillent dans une pièce. Où il n'y a rien à part une machine à écrire, puis ils se rappellent de rien, ils ne savent pas ils sont où, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, ils ne se connaissent pas entre eux.
Okay.
Et les premiers épisodes sont vraiment intéressants parce que ça fait penser à un genre d'escape the room. Tu sais, ils essayent de trouver pourquoi ils sont là, comment sortir de la pièce. Là, ils réussissent à sortir de la pièce et ils se retrouvent dans un univers complètement éclaté, de la science-fiction, mais fantastique. Donc, il y a plein de monstres, il y a plein d'ennemis, il y a plein de... Tu sais, il y a des vaisseaux spatiaux, mais il y a aussi des sorcières, tu sais, donc c'est vraiment un univers extrêmement éclaté. Et ces jeunes-là, dans le fond, vont essayer de comprendre pourquoi ils sont là et comment retourner chez eux, même si tout le long, ils disent « on sait pas c'est où chez nous », parce qu'ils n'ont aucun souvenir de où ils viennent. Et ils vont aussi découvrir qu'ils ont des pouvoirs.
Okay.
Donc, mettons, la fille, elle peut parler avec les animaux puis respirer en dessous de l'eau. Il y a un des gars, il est super fort, super agile. L'autre gars, il contrôle le feu. Donc mais leur pouvoir, ils les découvrent graduellement pendant la série. Ils vont rencontrer des alliés et des alliés plus ou moins nets. Donc, des espèces de gens qu'on dirait qui peuvent se déplacer entre les dimensions, créer des portails sans problème. Et à un moment donné, ils vont même rencontrer d'autres jeunes comme eux. Donc, un autre groupe de trois personnes qui sont là, qui rivalisent avec eux, mais sans trop savoir pourquoi tout le monde est là. Là, pour ceux qui veulent le regarder, en fait, je vous conseille de skipper peut-être 3 minutes de l'épisode parce que je vais divulgâcher la fin. Parce que je pense que la plupart des gens vont pas le regarder, mais c'est quand même intéressant de savoir c'est quoi le concept derrière. Donc, vous pouvez skipper quelques minutes.
Est-ce que c'est qu'il faut qu'ils écrivent sur la machine à écrire?
Ben en fait, au début, tu vois, ça c'est le premier épisode, et oui, ils écrivent sur la machine, mais une fois que ça c'est vraiment le premier épisode, après ça ils sortent, puis ils vont dans plein de mondes différents, ils vont dans des mondes qui ressemblent à du Star Wars dans le désert, ils vont dans des forêts.
Ils peuvent contrôler les mondes avec la machine?
En fait, ils reviennent jamais à la machine,
malheureusement,
c'était vraiment juste la première étape, ouais, c'est ça, exact, c'était vraiment juste la première étape. Ça aurait été cool, là, qu'ils bossent autour de ça, mais non. Mais ils ont plein de quêtes à faire, puis dans le fond, ils sont dans un jeu vidéo.
Ok.
Un jeu vidéo de réalité virtuelle ultra intense, et ils sont en compétition, en fait, c'est une compétition de jeux vidéo, une genre de grosse compétition internationale de jeux vidéo, et eux, c'est une des meilleures équipes du monde. Et ils se réveillent, à la fin, bien entendu, quand ils gagnent, ils se réveillent et ils se rendent compte de ah oui, c'est vrai, c'est un jeu vidéo, puis tout ça. Et en fait, c'est vraiment fucké parce que c'est dans ce film-là, il y a plein de références à plein d'affaires. Tu sais, justement, emmené, tu vois des vaisseaux, on se croirait sur Tatooine dans Star Wars, il y a des vaisseaux qui sont écrasés. Il y a plein de références à des trucs mythologiques aussi. Donc, on voit Cerbère, le chien à trois têtes, on voit des sorcières, mais les sorcières, je sais même plus c'est quoi leur nom, là, mais les trois sorcières qui
Le
contrôlent
Salem?
le temps. Non, celle qui. Il y en a une qui est aveugle, il y en a une qui est muette, il y en a
Ah
une qui est.
oui, ok, dans la mythologie grecque,
Ouais,
là.
c'est ça,
Ouais.
exactement. Donc, il y a énormément de références. Et en fait, ça se termine exactement comme le film Existence se termine. Le film Existence, qui est un film vraiment intense de Cronenberg. Donc, un film, tu sais, justement, où les gens se réveillent de la réalité virtuelle, puis sont comme, oh shit, puis là, t'es pas sûr s'ils sont encore dans la réalité ou non. Donc, c'est rempli de petites références. Ça, c'est qu'est-ce qui a fait, je pense, au final, que j'ai été accroché par cette émission-là. Donc, The Hollow, c'est quand même pas pire, mais c'est ça, c'est un peu pour les enfants. Donc, des fois, il y a beaucoup de répétitions dans les épreuves qu'ils vont devoir franchir. Donc, c'est vraiment régulièrement, ils arrivent dans une place, puis il y a un gros monstre, puis ils doivent le battre. Donc, tu sais, c'est un peu redondant, peut-être, mais sinon, c'était quand même intéressant. Ça se regarde rapidement, je pense, c'est 10 épisodes de 20 minutes, donc c'est pas très long. The Hollow.
Cool. Oui, on a écouté comme série, ben, film de couple en fait, Ave César.
Ouais, exactement. Donc, une série des frères Coen qui est sortie quand même en 2016. Ça fait un petit bout que c'est sorti, mais ils viennent tout juste de le mettre sur Netflix. Donc, on a dit, bon, c'est la bonne occasion de regarder ça, en fait. C'est un film assez bizarre parce que c'est une mise en abîme. Hein. T'sais, si vous connaissez les frères Coen, c'est une mise en abîme. Donc, c'est l'histoire d'un vrai producteur, en fait, qui s'appelle Eddie Mannix, qui était un vrai producteur à Hollywood dans les années 50. Mais là, c'est vraiment, ils ont éclaté l'histoire. C'est pas du tout sa vraie histoire, mais ils ont comme pris le vrai personnage, puis ils en ont fait un espèce de gars vraiment intense, de producteur de cinéma. Mais pas le producteur comme on imagine, c'est plus un gars qui résout des problèmes, là. Tu sais, le gars, il se promène avec une mallette de cash, puis il donne ça pour des rançons, puis il va intimider du monde qui vole leur image de marque. Donc, tu sais, c'est vraiment comme, c'est assez drôle comme c'est
Ouais, mais
comme
en fait,
film.
ça a un rythme vraiment incroyable, un peu à la genre Grand Budapest Hôtel.
Ouais, il se
Tu
passe des
sais,
choses tout le
oh
temps,
ouais, c'est sans
puis...
arrêt. On dirait qu'il y a un tapis roulant sous ses pieds, là. Tu sais, tout qui se déplace d'une scène à l'autre,
Ouais, il va partout,
là.
puis comme ça se passe majoritairement dans les studios d'Hollywood à cette époque-là, de la compagnie pour laquelle il travaille, ben c'est que tu vas d'un studio à l'autre, mais c'est des univers
Exact.
complètement différents. Donc, il se retrouve dans un film de marin, dans un film justement de César, un péplum, dans un film de western, donc
De sirène,
de
l'affaire des nages,
sirène, ouais,
nages
c'est ça.
synchronisées.
Donc, on voit vraiment tout, puis... En fait, moi, je voyais ça comme un genre d'hommage. En fait, le terme que j'avais utilisé, puis qu'après j'ai retrouvé sur Internet, c'est un pastiche. Parce qu'ils vont faire un pastiche de tous les genres cinématographiques qui étaient produits à cette époque-là.
Puis qu'ils sont plus tellement en fait maintenant.
Non, tu sais, les films de marins qui chantent, là, on n'en voit plus, mais à une époque, là, il y en avait énormément. Les films, les gros films, les péplums, là, dans le fond, ça, c'est les films historiques, religieux, romains, là. Il y en a encore un petit peu, mais il n'y en a plus
Mais
beaucoup,
non,
tu
c'est
sais,
ça.
alors qu'à cette époque-là, chaque année, il y avait un gros
C'était l'âge d'or,
blockbuster, c'est ça. Exactement. Et les westerns, bien entendu, qu'on voit pratiquement plus, qui ont dominé le cinéma pendant vraiment plusieurs années, là.
Puis aussi comme les films mondains un peu, tu
Oui.
sais, avec les gros décors, les salles de bal, les
Les
petites
gens habillés en
intrigues,
tuxedo.
les petites intrigues de chambre, là, puis tout ça. Puis aussi, justement, tu sais, les films de nage synchronisée avec une belle vedette, tu sais, qui dans le fond, elle plonge en dessous de l'eau, mais elle ressort et toute sèche.
Ouais,
Tu
c'est ça.
sais, ça, on voit plus ça du tout, du tout, du tout, là. Donc, mais en fait, moi, c'est peut-être ce que j'ai adoré le plus, là. Je trouve que c'est tellement bien fait, chaque petit univers,
Mais tu
là.
sens vraiment que c'est un petit univers, ça pourrait être comme des courts-métrages à part entière, tu sais. Donc, tu vois, moi j'ai l'impression que c'était un peu ça le but. Les frères Coen, hein, ils ont fait de tout, ils ont fait plein d'affaires, mais comme, j'ai l'impression que ce film-là, ils ont dit, OK, on va un peu rendre hommage à Hollywood des années 50, puis justement, tu sais, refaire des bouts de films de ce genre-là, de cette époque-là. Parce qu'on s'entend, l'intrigue dans le film, il y en a plus ou moins une. Il y en a une, mais elle est vraiment secondaire, là.
Ouais, non, c'est sûr, mais en même temps, tout tourne. Ben, c'est comme un message subliminal, un peu, tu sais, à la. Tu sais, comme avant qu'on coupait justement les bandes de films, puis on mettait la petite annonce d'un Doug, là, puis de, tu sais, pour te donner faim. Mais tu sais, c'est un peu ça, là, tout le long, on parle vraiment de l'obsession communiste, puis à la fin, tu sais, c'est des gros messages capitalistes, là, genre... arrête avec tes histoires, il faut, tu sais, le cinéma sert juste à desservir le capitalisme, puis à étendre nos idées, puis à les enfoncer en gorge des gens. Fait que tu sais, t'as quand même ça qui sort, mais c'est tellement années 50 dans le fond, tu sais. En fait, c'est comme si c'est les années 50 des États-Unis dans tous ses aspects, parce que tu sais, le cinéma, il transpose ses...
Ah, le cinéma, ouais. C'est, on s'entend, c'est le moteur de la culture, puis même maintenant encore, les Américains sont tellement forts pour propager leur culture et faire passer leur message, tu sais.
Ouais.
Donc, je voyais ce film-là un peu comme, pas une critique de ça, mais une espèce de vision de c'était quoi les années 50 dans le monde du cinéma.
Mais pas juste dans le monde du cinéma, tu sais, parce que...
Non, parce que ça, c'est vrai que ça transcende tout ça aussi.
Tu sais, comme, mettons, justement, la fille qui fait la Nancy Crane, ben, c'est Scarlett Johansson, là. Mais, tu sais, il y a tout un enjeu sur les mœurs, parce que, tu sais...
Elle, c'est une actrice qui est full belle, mais là, elle est tombée enceinte.
C'est ça. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes d'affaires comme ça qui... Puis, tu sais, mettons, justement, les marins, tu sais, qui dansent... Puis tu sais, ils dansent ensemble, puis ils sont quasiment en train de s'embrocher, genre vraiment d'une façon humoristiquement gay. Mais l'affaire, c'est qu'à cette époque-là, tu sais, c'est correct parce que l'homosexualité, ça existe pas, tu sais.
Ouais, donc ils peuvent se permettre ça, alors que maintenant, ça serait... Ben, exact. Ils le feraient pas parce que ça serait considéré comme gay, tu sais.
C'est ça. Puis tu sais, justement, le gars du western, il est tellement pur, il a monté les échelons dans le cinéma, puis tu sais, au début, c'était juste un gars de ranch, il était bon au lasso, tu sais, c'est comme le self-made
américain, ouais, exactement. Oh.
Fait que moi, je pense que c'est aussi plein de petites copies comme ça, tu sais, t'as la grosse vedette, puis tu sais, comme, ouais.
Non, mais c'est un film vraiment, tu sais, plus profond qu'il en a l'air, ouais. Parce que tu pourrais le regarder, puis c'est juste un beau film, le fun, mais en même temps, il y a plusieurs messages derrière ça aussi, plein de couches à analyser. Je dirais pas qu'en une écoute, on a pu vraiment tout analyser, la profondeur de ce film-là. Mais très bon film, hein? Ave César, super drôle, aussi très léger. On a regardé ça de même, on savait vraiment pas à quoi s'attendre. Mm-hmm. Puis ben, les frères Coen, encore une fois, félicitations. En fait, d'ailleurs, je pense que ce film-là, il a remporté... il a fait l'ouverture du Festival de Berlin, donc en 2016, quand c'est sorti. Puis les gens, je pense qu'il y avait eu des critiques assez favorables.
Ouais, c'est des grosses têtes d'affiche aussi, tu sais. C'est George Clooney, Scarlett Johansson. Tu sais, c'est qui comment elle s'appelle, la fille là, qui joue la journaliste, là?
Oui, je me rappelle jamais de son nom, en fait. Mais il y a quand même pas mal d'acteurs connus dans ce film-là. Donc, c'est assez intéressant, en fait. Mais je pense que, justement, je vois la description ici qui en font. Une parodie de Hollywood dans les années 50. Je trouve que c'est ça, justement. On va aller grossir les messages, accentuer vraiment tous les traits, là. Tu sais, une caricature, dans le fond, de Hollywood de cette époque-là, là.
Ben, peut-être que j'aime mieux le mot pastiche parce que c'est aussi un hommage à quelque
chose. Ben, ils le font avec respect, tu sais. C'est pas comme une grosse joke parce qu'ils prennent vraiment le message. Puis ça reste qu'Hollywood dans les années 50, c'était. Et tu sais, c'est encore là pourquoi est-ce que Hollywood est comme c'est maintenant, parce que ça a été un monument, tu sais, puis ils ont créé énormément de choses. Oui, on peut dire que c'était l'outil du capitalisme, puis à la limite, c'est sûrement vrai.
Ouais, c'est clair,
Ouais, mais tu vois qu'il y avait énormément d'argent qui roulait. Tu sais, emmener le gars, George Clooney se fait kidnapper par des communistes, et il demande une rançon de 100 000 $. Le gars, il appelle son comptable, il dit, bon, on a-tu un peu de liquide? Ouais, il met ça dans sa valise, ça rentre même pas.
Il pogne une ceinture pour la fermer.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment comme l'argent coulait à flot aussi à cette époque-là. Vraiment, vraiment intéressant. En fait, un beau film. Je m'attendais pas à grand-chose en le regardant, mais j'ai été étonnamment surpris.
Ouais, moi aussi, j'ai vraiment adoré. Puis l'esthétique est excellente. Puis même si dans les films péplum, genre pseudo-religieux, tu sais, c'est tellement ces films-là. Là, comme même, on dirait qu'il y a un filtre là, avec le même genre d'éclairage.
Ouais, c'est comme vraiment contrasté. Ouais, c'est ça. Technicolor,
en exact, fait, ouais. Puis c'est vraiment ça. Tu sais, je me revois encore regarder les 10 commandements avec mon grand-père. C'est la même affaire, le même genre de visuel.
Puis George Clooney, c'est comme l'acteur principal, mais on le voit plus ou moins.
Ouais, c'est vrai.
Mais il est vraiment bon parce qu'il joue comme la grosse star des années 50 qui surjoue. Puis tu sais, justement, il voit Jésus, puis là, il est comme, il faut qu'il pleure. Ouais. Mais là, il est comme, ok, il pleure. Mais tu sais, c'est vraiment comme exagéré, mais c'est super drôle.
Puis les gens sont émus,
tu sais. Ouais, même les caméramans, puis les éclairagistes sont comme, ils écoutent le speech, puis ils sont comme, ah, c'est vrai, tu sais.
Ah, c'est ça. Fait qu'en tout cas, c'est pro. Puis aussi, tu sais, ils essaient d'inclure toutes les religions, voir s'ils vont pas offenser quelqu'un. Parce que tu sais, c'est sérieux, là, de parler Jésus dans un film, tu sais. Il fallait penser au conseil.
Il amène un rabbin, il amène un prêtre, il amène tout le monde. C'est ça, il y a plusieurs. C'est vraiment. des scénettes, on dirait, ce film-là. Ouais. C'est plein de petites scènes. Oui, il y a une histoire, mais chaque petite scène ajoute quelque chose. Puis mm-hmm. même s'ils n'ont pas nécessairement de lien entre eux, c'est vraiment bien construit.
Ouais, c'est cool. Puis aussi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que, tu sais, comme, il essaie de montrer que, tu sais, le communisme, c'est cool, mais en même temps, quand ils parlent, tu sais, c'est tout le temps un peu un truc qui, on dirait, ça s'agit de la poudre aux yeux, la rhétorique est toujours un peu étrange, t'es comme, ah, je vois pas, tu sais, ça fait comme pas de sens, tu sais, qu'est-ce qu'ils disent.
Ah ouais.
Mais en même temps, t'es comme full impressionné, mais c'est comme, c'est vraiment bien joué en même temps.
Non, c'est, les dialogues, en fait, ouais. sont très bons. Ben, d'ailleurs, ça, la scène que tu parles, c'est comme George Clooney se retrouve avec comme un groupe de, en fait, c'est des anciens auteurs d'Hollywood qui sont ouais. tous rendus communistes. Puis ils ont des discussions
à force de se faire fourrer, là.
Ouais, c'est ça, à force de pas avoir la cote qu'ils méritent, vu que c'est juste des auteurs, tu sais, à Hollywood, on s'imagine bien les auteurs, c'est pas eux qui mettent l'argent la main sur l'argent, tu sais. Et là, ils ont des discussions intellectuelles sur le communisme, mais chacun se renvoie la balle, ouais, c'est vraiment bien tourné, là.
Puis tu te sens vraiment dans une assemblée générale d'un parti de gauche où on s'ostine sur des virgules.
Sur des virgules, ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment, vraiment très cool, en fait. Ouais, j'étais bien content de le voir, ça faisait longtemps que je l'avais dans ma liste. Puis ben, maintenant, il est sur Netflix, donc gênez-vous pas. Ave César, Hail Caesar.
Ouais, exact, parce qu'il est peut-être sorti en 2016, mais c'était une nouveauté Netflix, je pense.
Oui, ça, ouais. Ça fait pas très longtemps qu'il est sur Netflix, donc vraiment, ça vaut la peine. Pour ceux qui connaissent pas les frères Coen, ben c'est une bonne occasion de les découvrir avec un film qui est pas très long, hein, je pense que c'est 1h40. Mm. On est habitué avec les films maintenant de 2h15, puis tout ça, non, ça se regarde bien, et tout ça, donc super intéressant.
Oui, donc c'est tout pour cette semaine.
Bye bye!
Bye!